Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, Bertil Bourdon, Nicolas Sendé, mais aussi Mélanie Chalandon et Margot Le Ridon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Comme chaque vendredi, table ronde avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Et ce matin, dans le cadre de la journée spéciale sur France Culture sur l'état du débat, que faisons-nous du débat public ? Nous allons nous intéresser à un phénomène qui prend de plus en plus de place dans l'espace public, la « cancel culture », je mets des guillemets, qu'on pourrait traduire par la culture de l'effacement, la culture de la dénonciation. Née aux États-Unis en 2015, la notion fait référence à cette pratique consistant à dénoncer publiquement une personne en raison de son comportement, de ses idées. Une notion qui suscite d'importantes controverses, à droite comme à gauche d'ailleurs. Alors qu'est-ce que la cancel culture ? Quelle réalité recouvre cette expression ? Quelle forme prendrait-elle en particulier dans les universités américaines ? Et faut-il craindre qu'elles atteignent aussi nos universités ici en Europe ? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité Dick Howard. Merci, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université de New York. Vous avez signé, c'était il y a 2 ans maintenant, Les Ombres de l'Amérique, notamment. Avec nous également ce matin, Réjeanne Sénac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vous politologue, directrice de recherche au CNRS, enseignante à Sciences Po, au Centre de Recherche Politique, le CEVIPOF. Vous aviez signé notamment l'égalité sans condition et les non-frères au pays de l'égalité, donc les questions d'égalité, de liberté, de discrimination, c'est évidemment des choses qui vous intéressent au premier chef. Avant d'évoquer toutes ces questions, place d'abord à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Biélorussie.
On veut vivre dans un pays démocratique où on aurait des droits, où il n'y aurait pas d'injustice. On voudrait aussi que le pays évolue parce que nous nous rendons compte que nous vivons au cœur de l'Europe. Il y a un peu de peur, mais je sais pourquoi je suis dans la rue, et c'est plus fort que la peur. Je dirais que non, je n'ai pas peur.
Bonjour Andrei Vaitovitch, pardon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste franco-biélorusse. On vous reçoit pour ce documentaire Biélorussie, une jeunesse révoltée dont on vient d'entendre un extrait qui a déjà été diffusé sur France Télé mais qu'on peut retrouver sur le site. Vous êtes parti pendant 2 mois au Biélorus pour suivre les manifestations qui secouent votre pays d'origine. Donc, pour rappel, on a un profond mouvement de contestation qui s'est levé au lendemain de la réélection contestée de son président Alexandre Loukachenko avec une opposition en exil, en l'occurrence Svetlana Tikhanovskaya, qui est partie en Lituanie et qui revendique la victoire. Mais malgré la détermination de cette opposition, eh bien le chef de l'État reste en place et la répression policière est extrêmement forte. On va le voir, on va essayer de comprendre ce qu'il s'y passe et en particulier comment se mobilise cette jeunesse. Cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Nastia, que vous avez retrouvée un jour alors qu'elle s'apprêtait à participer aux manifestations de femmes, parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations de femmes du côté de Minsk. Pourquoi elle est dans la rue, Nastia ?
Donc, exactement. Donc, Nastia, elle a 20 ans, elle est étudiante à l'université linguistique d'État à Minsk, et comme beaucoup d'autres jeunes de ses amis de l'université, etc., elle pouvait pas rester à la maison. Ce qu'elle dit, elle a vu, vous dites que la contestation a commencé il y a 2 mois. Moi, je dirais plutôt que la contestation commençait bien avant le scrutin, et les gens savaient parfaitement bien que le scrutin sera falsifié. Et du coup, c'est vrai que depuis 2 mois, on vit dans un état de mobilisation permanente. Et je pense que le fait qu'elle soit dans les rues, ça prouve encore une fois que toute la population est mobilisée, dont les étudiants. Et c'est les étudiants, c'est la jeunesse qui va faire le futur de ce pays.
Quelques jours plus tard, elle va être arrêtée, mise en prison, transférée dans un centre de détention à quelques kilomètres de Minsk. Que va-t-il se passer pendant ces 48 heures ?
Alors déjà, pendant ces 48 heures, on ne savait pas où il se trouvait exactement. Donc pendant 48 heures, on n'avait pas de nouvelles d'elle. Son avocat ne pouvait pas accéder dans le centre de détention. Sa famille n'a pas été prévenue. Donc, vous voyez, ça, c'est le destin de tous les manifestants qui se font arrêter tous les jours. Et une fois, on a appris qu'elle était dans ce centre de détention à 500 km de Minsk. On y allait en espérant qu'elle sera relâchée. C'était le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour d'autres manifestants. Et elle m'a raconté voilà, les scènes de violence psychologique aujourd'hui, parce que les violences physiques, on pensait que c'est fini. Donc elle est tombée sur la période où c'était plus ou moins calme, sauf les pressions psychologiques. Mais la répression physique reprend, et on a vu ces derniers jours les arrestations assez brutales, musclées par les hommes en civil.
Et on va revenir justement sur ces hommes en civil, mais cette répression dans les prisons, elle est parfois beaucoup plus forte. Vous avez notamment rencontré un jeune trentenaire qui s'appelle Alexis. Pour lui, ça a été beaucoup plus compliqué, hein.
Exactement. Donc, il nous a raconté les scènes de violence, mais aussi des tortures qu'il a vécues, parce que dès que les gens se font arrêter, ils sont battus déjà dans les commissariats, puis une fois transférés dans les centres de détention, ils sont battus. Donc, les scènes qu'il a vécues, lui, c'était que, par exemple, la nuit, ils étaient tous sortis dehors dans le cour de ce centre de détention, ils étaient plaqués au sol, la plupart ont été déshabillés, et puis on les frappait, voilà, à coups de matraque, en dessinant des croix, par exemple. Donc, je pense qu'il ne s'agit plus d'une d'une violence classique, mais des vraies tortures. Parce que quand on fait chanter l'hymne national à poil dans un centre de détention par les hommes cagoulés, je pense, voilà, on peut parler déjà des tortures, des vraies tortures politiques.
Alors, justement, ces fameux hommes cagoulés, qui sont-ils? Quand si on revient à la manifestation de femmes dont je parlais en introduction, il y a un moment où il y a peut-être une centaine, disons, de femmes qui se retrouvent encerclées précisément par des hommes en treillis, en verre, en cagoulé. Qui sont-ils?
On ne sait pas. On ne sait pas, parce que ces hommes ne se présentent pas. Quand vous vous faites arrêter, on ne vous dit pas la raison, on ne vous dit pas qui vous arrête. Mais sans doute, c'est les forces anti-émeutes spéciales, belarusses, donc les aumônes, les forces anti-émeutes, ou bien les policiers, ou bien les services des renseignements. Il y a, en fait, toutes les forces spéciales sont mobilisées. Et voilà, vu qu'ils ne sont pas identifiés, ils ne portent aucun signe d'identification, on ne sait pas, mais en tout cas, ces hommes-là, ils sont toujours là, ils sont très nombreux. On sait que l'armée aussi a été mobilisée et que pour l'instant, ils ne sont pas prêts à lâcher les manifestants tranquilles.
Voilà. Oui, alors, et puis le spectre de la violence, au fond, est très large, parce qu'il y a les tortures, mais il y a aussi, j'allais dire, le simple harcèlement, je mets des guillemets. On voit par exemple, il y a un moment dans votre reportage qui est très intéressant, on voit une femme qui s'appelle Nina, qui est une figure de ce mouvement-là, qui a un certain âge et qui tous les jours descend avec son drapeau dans la rue. Et à un moment, on voit fondre sur elle un groupe justement de ces hommes en cagoulé qui lui arrache son drapeau, qui le casse et qui s'en va en courant. On est vraiment dans une forme de harcèlement qui produit ses effets visiblement, parce que ces fameuses manifestations de femmes, elles se sont arrêtées. Alors d'autres ont repris, et notamment les seniors, mais ça fonctionne malheureusement.
Ça fonctionne malheureusement pour un certain moment, mais comme vous venez de dire, voilà, il y a de nouvelles manifestations, et c'est ça, en fait, depuis 2 mois, on vit dans un ascenseur émotionnel. On pense que, voilà, cette répression va cesser les manifestations, les gens auront peur. Bien sûr, les gens ont peur, les journalistes qui travaillent sur place, ils ont peur, mais une fois, voilà, passé quelques jours dans les centres de détention, les gens reviennent dans les rues. Et maintenant, on a vu les seniors. Hier, on a vu une marche des personnes avec le handicap. Donc, vous voyez, tous les jours, on a quand même, enfin, toute la classe, toute la société civile est mobilisée. C'est pas uniquement les étudiants, c'est pas uniquement les femmes, mais c'est toute la société biélorusse qui est aujourd'hui mobilisée.
Et c'est que Minsk ou c'est partout? Parce que vous êtes allé notamment dans votre ville d'origine, on est à peu près à 200 km de Minsk. Vous êtes allé y rencontrer votre grand-mère. Là-bas aussi, on se mobilise?
Exactement. Et c'est cela qui est très inédit. lors de cette élection présidentielle, c'est que parfois à Minsk, on a vu des manifestations moins nombreuses que dans d'autres villes régionales, dans les capitales des régions, dans les petites villes des provinces, ou même dans les villages, parce qu'on croit souvent que dans les villages, les personnes âgées, ils regardent la télévision officielle, la propagande, donc ils sont pro Loukachenko, mais ce n'est pas vrai. Et même dans certains villages, on a vu quelques dizaines de personnes qui sortaient tous les soirs et continuent à sortir tous les soirs. Donc vraiment, il s'agit d'un pouvoir national.
Y compris des gens d'un certain âge, qu'on appelle voilà, les seniors. Il n'y a pas de rupture générationnelle. Au fond, tout le monde descend dans la rue. Il se trouve qu'il y a quelques jours, Andrei Vatovitch, vous parliez de situation inédite. Alors, espérons peut-être que des choses inédites vont se passer aussi dans le champ politique. Il se trouve que le président Loukachenko a rendu visite en prison à des prisonniers politiques. Il a notamment rencontré l'ancien candidat à la présidentielle, Viktor Babarika. Est-ce qu'on a une toute petite idée du contenu des échanges? Et est-ce qu'on peut imaginer que Loukachenko soit enfin enclin à rentrer en discussion?
Je pense que ce que Loukachenko voulait montrer, que voilà, il est prêt parce que déjà il a besoin d'argent, il a peur des sanctions économiques, et du coup cette rencontre, on peut déjà voir deux côtés officiels, donc ça a été raté parce qu'il pensait que c'est un début de dialogue, mais ce n'était pas le cas parce que les avocats de Babarika ont confirmé que ils ont finalement pas trouvé une solution magique et par exemple, Maria Kolesnikova, une des figures d'opposition, elle a refusé de participer à cette rencontre. Elle a dit, voilà, tant que je ne sais pas où je serai amené maintenant par les hommes qui ne se présentent pas, je ne participe pas. Et vous savez, maintenant, il y a un ultimatum qui a été donné par Svetlana Tikhanovskaya de 13 jours afin que Loukachenko parte, afin que tous les prisonniers politiques soient libérés. Donc, on verra d'ici une semaine comment ça va se dérouler. Mais pour l'instant, le pouvoir n'est pas prêt de mener un dialogue parce qu'on peut pas parler d'un dialogue quand les prisonniers politiques sont en prison et Loukachenko vient rendre visite comme ça. Donc voilà, le dialogue n'est pas possible.
L'ultimatum dont vous parliez de Svetlana Tikhanovskaya, si ces conditions que vous avez évoquées, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques et le départ de Loukachenko, si ces conditions-là ne sont pas remplies, elle dit que le pays tout entier descendra dans la rue et le lendemain, une grève générale débutera, les routes seront bloquées et les ventes dans les magasins d'État s'effondreront. À quoi vous attendez précisément pour ce 25 octobre, puisque c'est la date de l'ultimatum? Est-ce que la grève générale est possible, sachant qu'on a quand même en face, vous l'avez dit, une répression qui est extrêmement forte? Est-ce que cette mobilisation est possible?
Je pense qu'une fois cet ultimatum a été annoncé, je pense qu'il y a un projet qui se prépare, peut-être il n'est pas encore finalisé de la part de Svetlana Tikhanovskaya, mais en tout cas... ce qu'il faut souligner, c'est que les gens qui descendent aujourd'hui dans les rues, ils ne regardent pas forcément ce que Tikhanovskaya a dit depuis la Lituanie. Certes, c'est une figure d'opposition, c'est un symbole, mais aujourd'hui, ce n'est pas elle qui en fait alimente ce mouvement. En fait, les gens sortent parce que ils veulent dire non à cette répression. Donc les gens sont en colère et en fait voilà, Svetlana elle fait son rôle politique à l'international et c'est très bien, les gens le confirment, les gens apprécient beaucoup, mais en tout cas les gens sortent aujourd'hui pour avoir juste une nouvelle élection libre et que cette violence et cette répression politique cessent immédiatement et donc on verra, je pense que ce week-end il y aura encore des dizaines de milliers de personnes qui retourneront dans les rues.
Qu'est-ce qui peut être fait, Andrei Vatovitch, pour aider justement à cette transition qui peut-être adviendra dans le pays? Je parle en particulier du côté de l'Union européenne. Il y a déjà des sanctions qui ont été prises à l'égard d'une trentaine de responsables du régime. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Bien sûr que ce n'est pas suffisant et déjà Loukachenko n'était pas dans la liste. Maintenant c'est la question des jours. Il sera dans la liste la semaine prochaine.
Mais l'Allemagne met beaucoup la pression pour ça.
Exactement, et on ne comprend pas parce que, vous savez, lors de l'élection en 2010, les sanctions ont été finalisées assez rapidement, un mois plus tard, après le scrutin. Cette année, la répression est bien plus violente. On attend, on ne sait pas pourquoi Loukachenko n'était pas dans la liste. On parle d'un dialogue, mais on a vu que le dialogue n'est pas possible. Bien sûr, il faut continuer les sanctions. Les sanctions, c'est dont le régime a très peur, parce que les sanctions vont impacter tout le tout le système, surtout le système de la répression, les forces de l'ordre, parce que ça coûte beaucoup de l'argent. Et donc, il faut continuer. Mais en même temps, il faut aussi soutenir la société civile biélorusse. On parle beaucoup au sein de l'Union européenne qu'on va soutenir les démocrates. La Lituanie fait beaucoup. La Pologne fait énormément de choses. Il y a un couloir humanitaire. On aide aussi à ceux qui ont été torturés, etc., de faire sortir, de se réfugier en dehors du pays. Mais il faut faire davantage. Et la France, par exemple, quand on a vu la rencontre entre le président de la République et Svetlana Tikhanovskaya, certes, c'est un symbole très fort. C'était le premier chef d'État du G7 qui l'a rencontré. Mais au-delà de symboles, au-delà des promesses, il faut passer aux actes. Donc, il faut faire quelque chose. Je pense que la France peut aussi participer à ce couloir humanitaire, soutenir par exemple des étudiants qui seront virés des facultés après avoir manifesté, soutenir les journalistes qui travaillent sur place dans les conditions extrêmement difficiles où la presse étrangère ne présente même pas aujourd'hui parce que tous les journalistes étrangers ont perdu leur accréditation et donc les conditions de travail de journalistes aussi, je pense qu'on peut les soutenir. On peut faire quelque chose et on doit faire quelque chose.
Il y a un pays qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la Russie. Parce qu'on pourrait imaginer que ce sera de là que sortira peut-être la solution. On sait depuis le début de cette crise qu'il y a une forme de distance qui a été prise par Vladimir Poutine à l'égard de Loukachenko. Alors, soit il l'a reçu, soit il lui a apporté son soutien, mais on voit aussi qu'il y a une forme de service minimum. On sait par ailleurs que les relations ont été très difficiles. Il y a eu ce blocage au niveau de Loukachenko qui a refusé la création de cette union de la Russie et de la Biélorussie que Poutine espérait. Est-ce que vous imaginez que Poutine puisse changer sa position sur ce pays, en tout cas qu'il puisse mettre la pression sur Loukachenko pour exiger son départ, ou est-ce que à l'inverse, faut-il craindre qu'il le défende de façon plus active encore?
Je pense que tout dépend si Poutine accepte cette opposition qui n'est pas une opposition anti-russe. C'est une opposition qui disait dès le départ que on va garder la relation économique avec la Russie, que c'est quand même la base de notre économie. Donc, c'est vrai que Vladimir Poutine est très hésitant sur ce point-là. On a vu que la Russie a accordé une tranche de crédit à Loukachenko. Je ne sais pas combien de temps cela va permettre au régime de durée, mais en tout cas c'est vrai que c'est une question sur laquelle Poutine ne se prononce pas beaucoup. C'est vrai que il a dit en cas besoin il va envoyer de milices formées pour soutenir les forces de l'ordre biélorusses. Ils étaient bloqués à la frontière, donc ce ne s'est pas fait, mais vous savez, parmi ces hommes en vert cagoulés, etc., on a beaucoup de soupçons sur leur provenance, en fait. Est-ce que c'est vraiment uniquement les Biélorusses qui sont aujourd'hui dans la rue, qui arrêtent les manifestants, ou bien est-ce que c'est aussi d'autres personnes venues déjà
On se souvient très bien des petits hommes verts du côté de la Crimée en 2014, mais il n'y a pas de preuves pour l'instant de ça.
Il y a des preuves, mais il y a quand même des soupçons qui font beaucoup penser, hésiter sur cette question-là, parce que même parmi les personnes que j'ai rencontrées qui ont été arrêtées, ils disaient, mais ces hommes, ils ont un accent pas très belarusse, donc vous savez ce que je veux dire. Donc bien sûr, on n'a pas de preuves parce que ces hommes-là, ils sont complètement protégés par le pouvoir, donc ils sont cagoulés. Je pense que dès qu'il y aura plus de journalistes sur place, et c'est pour ça que j'encourage mes collègues de venir, même si c'est dangereux, même s'ils n'ont pas d'accréditation, il faut toujours tenter. Parce que si on oublie ce pays, si le journaliste arrêtent leur travail, du coup, on ne pourra pas informer, on ne pourra pas vraiment montrer cette réalité sur place.
Merci beaucoup, Andrei Ivatovitch, d'être passé dans nos studios. Je rappelle donc votre documentaire « Biélorussie, une jeunesse révoltée » qu'on peut retrouver sur le site de France Télé. Merci à vous.
Merci à vous. Холодное солнце, головное маят быться. Мы дыхаем сном, мы
дихаєм знов. Спалоханий я, безкрилий я, ці варти я гетей долі ми. Дихай свободна, мила я, прагна клитками довгими. Дихай наповнує груді нам, вітра зіб та блока в дом. Гляді, не гляді в минулое, ніби мотильок на своє світло. Після навальниці.
Allez, on quitte la Biélorussie. Journée spéciale sur l'antenne de France Culture aujourd'hui. Que faisons-nous du débat public? C'est la question qu'on se pose toute la journée sur l'antenne de France Culture. Et nous, dans Culture Monde, on a choisi de parler de la cancel culture, je mets la formule entre guillemets, des campus américains aux universités européennes. Point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque depuis des mois maintenant, le débat monte aux États-Unis autour de cette cancel culture, un concept sur lequel surfent les responsables politiques américains, bien sûr, à l'instar d'un Donald Trump, par exemple.
Cancel culture. À cause de la cancel culture, les gens se font virer de leur travail. Elle humilie ceux qui la critiquent et exige une soumission totale de la part de ceux qui sont en désaccord avec cela. Ceci est la définition exacte du totalitarisme. Et ceci n'a absolument pas sa place au sein des États-Unis d'Amérique.
La cancel culture qui conduit au totalitarisme, ou quelque chose comme ça, disait Donald Trump en juillet dernier. Mais il n'est pas le seul à s'inquiéter de ce phénomène, comme l'avait montré cette tribune parue dans le mensuel Harper's, traduite dans Le Monde, dans laquelle 150 artistes et intellectuels, plutôt de gauche cette fois, condamnaient l'intolérance à l'égard des opinions divergentes. Alors faut-il s'inquiéter de cette montée en puissance de la cancel culture? Que nous dit-elle de notre difficulté à débattre? D'ailleurs, qu'est-ce que la cancel culture? Quelle place tient-elle dans des espaces censés protéger la libre parole et l'approche critique, et en l'occurrence les universités? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Dick Howard. Merci encore d'être avec nous ce matin. Philosophe, professeur à l'université de New York. Vous aviez signé, je le disais, Les Ombres de l'Amérique. Réjeanne Sénac également est avec nous ce matin. Vous aviez signé, vous, Réjeanne Sénac, L'égalité sans condition notamment. On est toujours avec nos partenaires du Monde le vendredi, Marc Semo. Réjeanne Sénac, j'ai peut-être commencé avec vous, peut-être, si vous le permettez, Dick Howard, parce que depuis des mois maintenant, il y a ce débat très fort autour de la cancel culture, avec d'un côté ceux qui rejettent purement et simplement son existence et qui considèrent qu'au fond, il ne s'agit là que de l'expression d'un camp qui ne supporte pas de voir émerger des revendications de populations dominées qui défendent leurs droits et qui n'ont en réalité que cet outil pour le faire. Et puis de l'autre, on a des personnalités qui, elles, s'inquiètent de l'état général du débat, qui dénoncent une forme de censure qui pèserait sur le débat public. Que vous inspire l'expression elle-même? Est-ce qu'elle vous gêne?
Alors, elle est intéressante en ce qu'elle rend visible, mais aussi en ce qu'elle occulte. Je trouve que c'est un peu le même rôle, en tout cas dans la société française, que l'expression de théorie du genre. C'est vraiment un rôle de repoussoir, de difficulté à débattre pour moi des vrais enjeux, mais pour autant, elle ouvre des brèches au débat, et ça, c'est intéressant. La cancel culture, si c'est pour dire que la liberté d'expression, le pluralisme démocratique doit être assuré, quel que soit la position des actrices et des acteurs, je pense qu'il y a une forme de consensus là-dessus et qu'on n'a pas besoin de ce terme de cancel culture pour le défendre. Moi, ce que je trouve intéressant, et là-dessus pour faire du lien, et c'est intéressant qu'on le garde en anglais d'ailleurs, avec ce sujet, c'est de faire référence à un entretien de Judith Butler dans New Statement le 22 septembre 2020, très récemment, où elle explique pourquoi elle n'a pas signé la tribune de Harper's Magazine, qui a été d'ailleurs traduite dans Le Monde. Et je trouve son explication très éclairante. Et j'aurais eu la même
elle réaction. Elle dit quoi, en quelques mots?
Et alors, très rapidement.
Et après, je passe la parole à Dick Howard pour qu'on puisse faire un premier tour de table.
Et ça fait du lien, voilà. Donc, elle explique quoi? Elle explique que, bien entendu, elle est tout à fait solidaire et qu'elle s'oppose à toute insulte, toute agression, qu'elle soit virtuelle ou... alors, c'est la plupart du temps, c'est virtuel d'ailleurs, d'acteurs dans l'espace public, et en particulier, elle fait référence à un certain nombre d'acteurs qui d'autrices ou d'auteurs qui signent, hein, comme J.K. Rowling ou Margaret Atwood, cette tribune.
Mais
elle souligne que le nombre, et en France, on le voit, qui sont en augmentation, le nombre d'agressions, d'insultes et d'agressions à la fois à travers les réseaux sociaux, mais aussi d'agressions physiques des populations les plus vulnérables, mais des populations discriminées. Elle cite les trans, les LGBT, augmente, et que c'est intéressant qu'on utilise ce terme qui est censé être un terme lié à l'effacement ou à l'humiliation, au dénigrement, uniquement pour quand c'est les féministes ou les antiracistes qui remettent en cause des personnes, mais avant tout un système, mais jamais quand il s'agit pour ces féministes, ces antiracistes, tous ceux qui déconstruisent ou qui dénoncent les inégalités, les injustices, qui subissent, eux, des humiliations, des agressions virtuelles, d'accord, mais aussi physiques.
Dick Howard, et puis ensuite je vous passe la parole, Marc Sémo, mais Dick Howard, est-ce que vous aussi vous êtes gêné par cette expression cancel culture, et est-ce qu'on peut tenter une définition, je le disais tout à l'heure, l'expression nous vient, et on l'entend, des États-Unis. Est-ce qu'on arrive à dessiner un peu les contours de ce qu'est la cancel culture?
Je crois tout à fait. Mon expérience avec ce phénomène date d'ailleurs de mes années d'études à Nanterre, quand c'était dans les années 60, et quand on voulait déconsidérer les idées de quelqu'un, on posait la simple question « D'où parles-tu, camarade ?» Donc ça pour la gauche. Mais comme j'ai quand même ce côté américain, je me souviens aussi du macartisme, je me souviens surtout de la fameuse pièce d'Arthur Miller sur les sorcières de Salem, n'est-ce pas? Et donc, il y a ce phénomène un peu partout. La différence, c'est qu'on était dans les années 50, si l'on veut, on était plus franc, les années 50-60. Et du côté, on était plus franc, on disait quelle tendance, quel groupe, quel intérêt politique on représentait. On savait que les macartismes, ça, c'était un phénomène d'autodéfense du capitalisme impérialiste.
Quand vous dites on était plus français, au fond, on assumait plus son positionnement politique. Mais aujourd'hui, est-ce que la problématique, c'est pas tel temps d'assumer ou de ne pas assumer que de vouloir précisément dépasser les clivages?
Ben, c'est pour ça que vous dirigez la discussion, c'est que vous pigez très vite. Donc, voilà.
Marc Sémo.
Alors, justement, avant, vous parliez du macartisme, c'était une censure d'État. Là, on est dans quelque chose de très différent.
Ce n'était pas une censure seulement de l'État, au contraire.
Avec quand même des conséquences judiciaires, des poursuites qui ont été engagées, et en même temps d'une partie de la société. Là, quand même, ce qui est très frappant, et je reprends les mots de l'appel publié dans le Harper, on parle d'intolérance à l'égard d'opinions opposées, de vogue pour la dénonciation publique et l'ostracisme, la tendance à dissoudre des questions politiques complexes dans une certitude morale aveugle, c'est très lourd. C'est et ce qui est significatif, c'est que ça vient d'en bas. Alors est-ce qu'il n'y a pas là-dessus une spécificité américaine? C'est-à-dire en France, on a la liberté d'expression est régie par la loi. C'est-à-dire, il y a, par exemple, l'incitation à la haine raciale est punie. Aux États-Unis, il y a le premier amendement qui garantit la totale liberté d'expression. Et d'une certaine façon, depuis très longtemps, c'est de la société que sont nées un certain nombre de contestations contre, justement, des choses jugées offensantes, des attaques, etc. Et qu'aujourd'hui, on en voit les excès. C'est-à-dire une espèce de dérive où au nom du bien, des petits groupes bloquent absolument toute forme de débat et on arrive à de la censure.
Alors, Dick Howard et puis Régène Sénac, on va commencer dans cet ordre-là, les États-Unis puis la France d'une certaine manière, même si vous ne représentez pas vos pays respectifs. Mais enfin, Dick Howard.
Bon, non. Je reviens, j'introduis une distinction conceptuelle qui date des années 50 par ailleurs, mais qui est applicable aujourd'hui. C'est la distinction entre une culture fondée sur la culpabilité et une culture fondée sur la honte. Et on peut dire, bon, la culture fondée sur la culpabilité, c'est l'éthique protestante, si l'on veut, mais c'est aussi ce qui explique qu'au sein de ces mouvements, par exemple les droits civiques, il y avait des objecteurs de conscience. On ne parle pas aujourd'hui de conscience de la même manière. On est dans une culture de la honte. Et je crois, d'ailleurs, cette distinction vient de Ruth Benedict, l'anthropologue, pour décrire le Japon juste après la Deuxième Guerre. Du coup, si on est dans une culture de la honte, qu'est-ce que ça fait pour les fondements de la démocratie? Parce que quand même, un démocrate qui se laisse justement pourchasser par les opinions comme ça, qui du coup est conformiste, est-ce que ça peut être la base d'une démocratie, ou ne faudrait-il pas prendre la prégnance de ce concept et se demander qu'est-ce qu'elle dit sur notre société, sur son devenir? D'une part.
Mais attendez, vous parlez de démocratie, pardon de vous couper. Est-ce que vous considérez, et je vous donne la parole, est-ce que vous considérez que la cancel culture, si tant est qu'elle existe, on va y mettre des guillemets, est une menace pour la démocratie?
Je crois qu'elle reflète un état.
Américaine, en l'occurrence?
Elle reflète l'état de cette démocratie, et du coup, elle nous dit quelque chose sur la manière d'intervenir, par exemple, pour éviter ce genre de préjugés, sinon pire, en parlerait Jeanne.
Donc elle est un révélateur, mais pas forcément une menace sur les institutions.
C'est que la démocratie se menace elle-même continuellement.
Bien sûr. Régène Sénac.
Alors juste pour relever qu'on utilise beaucoup d'une terminologie qui est associée à l'éthique, à la morale. On va parler de censure, on va parler de moralisation, on va parler de sentiments. Ce qu'il faut voir, c'est que les personnes, en dehors de ceux qui commettent des actes qui sont répréhensibles, et je les dénonce absolument, et je pense qu'on est... il n'y a pas de discussion là-dessus, mais ceux qui est étiqueté comme de la cancel culture, de manière large, par exemple en France, on a étiqueté comme de la cancel culture, et donc discrédité, puisque ça va ensemble, le mouvement MeToo, par exemple. Donc, ça a pu être associé à ça. Ou par exemple, autour de Christophe Girard. Christophe Girard, adjoint à la culture, dans son communiqué de démission de son poste, parle de macartisme. Alors, on se sert souvent des Américains comme des repoussoirs. Hein, bootcop, bad cop, c'est assez facile.
On a l'habitude.
Oui, c'est facile pour les Français, du coup, de rester comme un mythe idéalisé. Donc, Christophe Girard dit « Je suis victime ». Du macartisme, je suis victime de la cancel culture. Mazarine Pinjot, dans sa tribune, conspue les médiocres harceleurs, censeurs, qui font de la cancel culture contre celui dont elle a été témoin de mariage. Pour moi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à travers cet écran de la cancel culture, ce qu'on ne veut pas voir, c'est la dimension éminemment politique et non pas morale, donc on renvoie au bien alors qu'il s'agit du juste, des dénonciations des questions de responsabilité, individuelle, mais avant tout de responsabilité collective et politique. Donc là-dessus, moi je trouve que il ne faut pas que ça devienne un évitement des enjeux politiques qui sont ici discutés. Et là-dessus, je trouve que c'est intéressant quand j'ai pris l'exemple de Christophe Girard. Qui est sous protection judiciaire? C'est pas Christophe Girard, c'est Alice Coffin, l'élu Europe Écologie Les Verts, avec Raphaël Rémy-Leleu, qui se sont mobilisés et qui se sont mobilisés dans une logique éminemment politique de dire ce n'est absolument pas cohérent politiquement que Christophe Girard, par rapport à ses liens de proximité avec Gabriel Masneff, soit adjoint à la culture dans un exécutif qui se veut porter les enjeux d'égalité. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant aussi de voir que c'est quoi la cancel culture? Roman Polanski, il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur. Il est vraiment victime de cancel culture? Qui est victime de cancel culture? Donc moi, j'aimerais bien qu'on me dise concrètement qui est victime de cancel culture. Aurel San, qui a des victoires de la musique qui pleuvent à chaque fois qu'il y a un recours juridique. Parce qu'on parle de morale, mais c'est de la politique, c'est souvent des recours en justice qui sont avec des qualifications très claires. Éric Zemmour, il est victime de la cancel culture, il est sur CNews. Voilà, donc Gérard, il faut...
Vous parlez d'Alice Coffin et je vous donne la parole, la parole d'Ico Ward, mais vous parliez d'Alice Coffin, on a voulu aussi centrer les choses sur le monde universitaire, qui est vraiment celui où normalement la parole doit être la plus libre possible, on doit pouvoir échanger, on doit pouvoir enseigner librement. Il se trouve qu'Alice Coffin, précisément, vient d'être remerciée, je ne sais pas quel terme il faut utiliser par l'Institut catholique de Paris. Il se trouve qu'elle, vous l'avez pas mentionné, mais moi je vais le redire, elle vient de publier un livre qui s'appelle Le génie lesbien, qui a été assez moyennement accueilli, en particulier dans la sphère conservatrice, on va dire. Est-ce que, par exemple, ce fait-là, alors qu'elle intervenait dans cet institut sur les questions de représentation des minorités, sur le féminisme, sur les minorités LGBT dans les médias, est-ce qu'elle a été clairement écartée pour cette raison-là? Est-ce qu'on est dans le cadre de quelque chose qui relève de la cancel culture, là?
Alors, comme vous l'avez compris, moi, je suis pas à l'aise avec ce terme pour plusieurs raisons. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la manière dont ce terme est utilisé uniquement pour certaines personnes et pas d'autres est très, très dérangeant. Hein. Et là-dessus...
Oublions le terme. Est-ce qu'il vous semble que là, on a quelque chose qui révèle un problème dans la liberté d'enseigner dans les universités françaises?
Alors, l'Institut catholique est particulier, enfin voilà, a sans doute une approche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est suite à cette controverse que son contrat n'a pas été renouvelé. Et ce que ça dit pour moi, c'est que la question de qui on fait taire et quelle parole est dérangeante, elle est beaucoup plus complexe, puisqu'on renvoie la complexité du côté de la cancel culture, et voilà, elle est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on dit. Et en effet, c'est pour ça que je citais Roman Polanski, Aurélien Contentin pour Aurel San, on peut citer énormément de personnes. Ou Éric Zemmour, leur parole, elle est entendue, elle est retransmise. Là, ce qu'on voit avec Alice Coffin, c'est que c'est une parole qui dérange et en effet à qui on enlève pas mal de leviers d'expression.
Dick Howard, si on reste sur la question de l'université, est-ce qu'aujourd'hui il y a une dégradation très claire de la liberté d'expression, de la liberté d'enseigner sur les campus américains?
Ben, écoutez, quand vous m'avez contacté pour parler de cela, il se trouve que j'étais à un dîner avec mon fils qui est prof et ma petite fille qui est en deuxième année d'université. Donc je leur posais la question, qu'est-ce qu'il en est, parce que moi je suis quand même émérite, heureusement pour moi, mais effectivement c'est curieux, c'est finalement l'expérience des enseignants semble être plus marquée que ne l'est l'expérience des étudiants. Peut-être parce que les enseignants ont des, comment dirais-je, ont des intérêts à protéger, parce qu'il y a des processus de titularisation, il y a des processus de mise en valeur, d'horaires d'enseignement et tout ça. Donc, j'ai l'impression que ça joue à ce niveau-là, mais en fait, la chose qui est qui me frappe le plus, c'est finalement la manière dont les universités réagissent à cela,
c'est-à-dire,
vous êtes président d'une université, vous êtes doyen, vous agissez par précaution, vous préférez arrêter quand vous voyez la fumée. Vous venez vite avec de l'eau pour l'éteindre. Donc, j'ai l'impression que c'est à ce niveau-là, et c'est qu'on a créé une sorte de bureaucratie qui cherche à imposer ses propres valeurs. Reste la question, est-ce que l'université est une institution démocratique et quel est son rôle dans une société démocratique? Ce qui est une autre question, me semble-t-il.
Marc Semeau.
Mais je voudrais justement revenir à la comparaison avec la France. Parce que finalement, il y a une longue histoire aux États-Unis avec le politiquement correct qui avait commencé déjà dans les années 80. Alan Bloom en parlait, etc. Donc il y a une longue histoire. En France, c'est quelque chose de plus récent. Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand même à quel point vous soulignez tout à l'heure que les directions des universités agissent selon le principe de précaution. On a l'impression que c'est la même chose en France et d'une façon qui confine plus à l'absurde, parce que les groupes qui contestent sont quand même beaucoup plus petits et marginaux qu'aux États-Unis. Et qu'on a vu, par exemple, ça a été l'exemple de l'annulation de plusieurs conférences, dont celle de Agachinsky à Bordeaux, où finalement on veut pas d'ennui, donc on décide d'annuler la conférence, ce qui n'est pas bien, parce que de la même manière que c'est scandaleux que Alice Canfinch soit privée de son poste, on aurait aimé qu'elle montre la même tolérance vis-à-vis des idées émises par notamment Sylvaine Agachinsky à Bordeaux, et qu'elle ne mobilise pas sur ces terrains-là. Finalement, voilà, on n'est pas d'accord avec des idées, mais finalement, c'est normal d'écouter ce que dit l'autre.
Régine Sénac.
Alors là-dessus, c'est différent de perdre son poste et de pas pouvoir faire une conférence. Enfin, je...
Certes.
Donc,
ça part quand même d'une mécanique semblable.
Alors, moi, ce qui me dérange dans le terme de cancel culture, c'est que j'ai l'impression que c'est souvent des grandes figures qui ont déjà beaucoup de pouvoir et qui en réalité le gardent, qui ne supportent pas de se voir remises en cause et qui de ce fait-là crient à la censure. Alors que moi, tant que ça reste, bien sûr, dans le respect du pluralisme de la non-incitation à la haine, à la violence, de la non-agression, là je suis absolument sur ce registre, je trouve que faire parler dans le débat public d'autres voix, au contraire, ça participe du pluralisme. Moi, je suis tout à fait pour qu'on agrandisse le cercle des actrices et des acteurs légitimes au débat, dans un respect des droits fondamentaux.
Mais
Par exemple, sur MeToo, et ça c'est intéressant de dire, ça participe de la cancel culture. À quel moment en France on étiquette un comportement comme participant de la cancel culture? Pour moi, c'est ça qui dit des choses. Et ce que ça dit, c'est une frilosité encore très grande, une résistance encore très grande à une dénonciation de responsabilité, soit individuelle, qui pour moi doit passer par la justice, bien entendu, mais on voit que la justice fait très mal son travail, malheureusement, quand on regarde la proportion de violence et d'agressions envers sexuelles, sexuées, mais aussi racistes, antisémites, xénophobes. Quand on regarde le très peu nombre de recours et de condamnations, on se dit que là, il y a un dysfonctionnement vis-à-vis de la justice. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut se rendre justice soi-même, absolument pas, mais qu'il faille entendre ces dénonciations et les porter plus fortement à travers à la fois le débat public respectueux, mais aussi des recours en justice. Moi, la seule peur que j'ai, c'est que ça fasse écran au vrai sujet, qui est le sujet, quand on regarde les rapports de la DILCRA, de la délégation interministériel de lutte contre le racisme et l'homophobie, quand on voit que les actes d'agression physique des insultes, mais aussi physiques envers les personnes homosexuelles, transsexuelles, mais aussi envers les musulmans, a augmenté, et dans une proportion d'un tiers. Je veux dire, pour moi, c'est ça le sujet, plus que des dépassements vraiment très ponctuels en termes de débat public.
Dick Howard, j'ai vu que vous vouliez réagir, et puis ensuite on fera une petite pause en dessin. Dick Howard.
D'accord. Ben, quand on distingue les États-Unis de la France, il ne faut pas oublier qu'il y a aux États-Unis la question, comme on dit, la question noire. C'est-à-dire, il y a deux genres, mais c'est pas exactement ça, deux groupes qui peuvent légitimement se sentir victime et avoir des réclamations qui touchent à cette dite culture. J'aimerais poser la question pour l'instant, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de cancel culture? Qu'en est-il justement des réclamations des Noirs? Prenons un exemple très concret qui sort des murs de l'université, mais qui est en train de rentrer dedans. Le New York Times a publié une section spéciale qui s'appelle 1619. C'est édité et c'est écrit pour montrer que l'histoire américaine n'est pas fondée sur la déclaration de l'indépendance, de ces fameuses paroles de Jefferson, sur ces vérités que nous tenons pour évidentes, etc. Mais que la vision politique des Américaines date de 1619, quand les premiers esclaves étaient importés. Et là, ce débat-là entre sérieusement dans le campus, et le New York Times pousse son produit.
Vous allez voir, on va avoir l'occasion de parler encore du New York Times dans quelques instants. Mais d'abord, place à notre bulle du vendredi. C'est le dessin qu'on choisit en fonction de notre actualité du jour. C'est donc la bulle du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créés pour faire rire les hommes, mon
vieux. Assis.
Avec l'association Cartooning for Peace qui sont nos partenaires. Et c'est aujourd'hui Margot Leridon. Bonjour Margot.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Qui nous présente ce dessin du jour qui évoque l'un des sujets qui cristallise les débats autour de la cancel culture au-delà du monde universitaire, le déboulonnage de statues.
C'est une question explosive aux États-Unis. D'où nous vient ce dessin signé Cooper? Il représente une réunion étrange dont tous les participants se tiennent sur un piédestal. La fête des statues déboulonnées. Parmi les figures de conquistadors, de soldats sudistes de la guerre de sécession et de notables esclavagistes, on voit au premier plan une femme vêtue à l'antique, portant au-dessus de sa tête une guirlande de tournesol. « J'étais à l'ancienne Penn Station, et toi, tu faisais quoi ?» demande-t-elle, affable, à celui qui semble être un général confédéré, sur cette vignette titrée « Moment gênant ». Cette femme, c'est une allégorie du jour qui se lève, et que ceux qui ont vécu autrefois à New York connaissent bien. Elle ornait le fronton de la mythique gare Pennsylvania Station jusqu'à la démolition de son bâtiment principal au mi-temps des années 60. À l'époque, une photo du New York Times montrant l'angélique buste de marbre gisant sur un sol jonché de gravats avait ému les habitants de la métropole qui s'étaient mobilisés pour sa conservation. Si la destruction du bâtiment pour des raisons économiques avait suscité la polémique, la figure de la statue en question était de son côté tout ce qu'il y a de plus consensuel, bien loin des autres participants de la fête dépeinte par Cooper, qui rappellent des événements plus récents. En juin, ce sont des manifestants antiracistes qui ont déboulonné la statue du général confédéré Albert Pike à Washington, un incident que le président Donald Trump a qualifié de honte pour le pays. La veille, à San Francisco, des militants ont renversé les statues de Junipero Serra, évangélisateur brutal des indigènes de Californie, du parolier de l'hymne américain Francis Scott Key, esclavagiste notoire, et même d'Ulysses Grant, 18e président des États-Unis, pourtant moins controversé. Mais le déboulonnage de statues n'est pas l'apanage de manifestants. En Virginie, le gouverneur Ralph Northam a promulgué un texte permettant aux municipalités de retirer les monuments à la gloire des confédérés. C'est sur cette base que le maire démocrate de Richmond, Livar Stoney, a décidé de déboulonner en juillet la statue du général sudiste Stonewall Jackson. Deux mois plus tard, c'est le soldat de bronze Johnny Reb qui tombait à Charlottesville. Un événement lourd de sens dans cette ville où une militante antiraciste de 32 ans avait été tuée en 2017 par un chauffard néo-nazi qui avait foncé dans une foule de manifestants. Ces derniers s'étaient réunis pour s'opposer à un rassemblement de suprémacistes blancs, eux-mêmes réunis pour s'opposer à un projet municipal, celui de déboulonner la statue du général confédéré Robert E. Lee. Trois ans plus tard, celle-ci, est finalement toujours debout.
Merci beaucoup Margot Leridon. On met évidemment le dessin sur le fil Twitter de Culture Monde, un dessin qui fait beaucoup rire Dick Howard. Réaction peut-être l'un et l'autre, Dick Howard et puis Réjeanne Sénac aussi, vous allez réagir. Dick Howard, évidemment, Charlottesville, ça a été des événements dramatiques parce que, Margot l'a dit, il y a quand même une personne qui est morte, et doublement dramatique parce que derrière, on a un président américain qui n'a même pas été capable de dénoncer les groupes suprémacistes blancs. Dick Howard, réaction sur ce dessin.
Écoutez, c'est très simple, ma réaction, c'est le livre que j'ai écrit. J'avais pas l'intention d'écrire une histoire des États-Unis, de Kennedy à Trump. Les ombres de l'Amérique, oui. Et Charlottesville m'a secoué. En fait, j'étais, quand il y a eu l'élection de 2016, j'étais à France Inter. Je dénonçais les deux candidats, tous les deux de façon différente, représentaient une sorte d'anti-politique. Et je croyais que quand même, quel que soit le résultat, les institutions tiendraient la séparation des pouvoirs, les freins et les contrepoids tiendraient. Et finalement, c'est Charlottesville, quand Trump, interrogé sur la question, dit qu'il y avait des gens bien des deux côtés. Je voulais pousser ça plus loin et j'irai maintenant très brièvement devant la Maison Blanche, sur la square qui s'appelle Lafayette Square, le début juin de cette année, Trump, il y a une manifestation des Black Lives Matter, Trump fait vider la place au gaz lacrymogène pour qu'il se promène, je sais pas, 100 mètres de la Maison Blanche jusqu'à une église à côté, église qui par ailleurs était anglicaine, mais passons, et il s'est présenté devant la presse, il tenait dans sa main droite une Bible, je sais pas où il a procuré cette Bible, je ne sais pas si c'était de sens dessus ou dessous, en toujours est-il que là, et je crois qu'on a un cliché de ce qui est la politique. Et je dis encore une phrase, c'est que il y a beaucoup de gens qui posent la question, pourquoi vous dites Black Lives Matter? Toutes les vies se valent, toutes les vies ont l'importance. Et il faudrait revenir sur cette question, mais j'aimerais savoir ce que ma partenaire...
C'est-à-dire quoi en particulier? Qu'est-ce que vous voudriez savoir quoi? Qu'est-ce que vous voulez poser comme question à Rajan Sanak?
D'une part, comment elle réagit à cela, et surtout, comment la question noire, je disais entre guillemets, comment ça entre dans vos cordes, vos catégories oui.
Rajan Sanak.
Alors là-dessus, en France, on parle beaucoup de tabou de la race. Hein. On discute cependant beaucoup de la racialisation et de ses effets, c'est-à-dire comment les catégories identitaires dans lesquelles on est intégré, inclus, qu'on le veuille ou pas, vont avoir des répercussions en termes de discrimination structurelle. Et quand on regarde, il y a un nombre de travaux qui montrent que... une personne qui est perçue comme musulmane va devoir envoyer, par exemple, 4 fois plus de CV qu'une personne, qu'un homme qui est perçu comme catholique en France pour avoir un entretien d'embauche. De la même manière pour les Maghrébins. Donc nous, la question noire, en tout cas la question des groupes racisés qui subissent des discriminations, il y a une dimension postcoloniale très forte et on voit bien, avec des études objectives qui sont avec des envois de CV anonymes en particulier, montrent bien que c'est les hommes maghrébins ou perçus comme musulmans qui vont être les plus discriminés. Il y a bien sûr aussi des discriminations pour les personnes noires, pour les juifs, mais ça va être de manière beaucoup moins forte. Voilà, donc on va pas hiérarchiser les discriminations, mais quand même c'est intéressant de voir que ce qui va se poser d'un point de vue bien sûr de profondeur historique pour les États-Unis, plutôt pour les personnes noires ou pour les latinos, va être plutôt pour les personnes maghrébines ou perçues comme musulmanes ou les personnes noires en France. Par rapport au débat sur les déboulonnages de statut, moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme si on n'avait pas une vision dynamique ou processuelle de notre rapport à l'histoire et notre rapport à l'espace public. Bien sûr qu'il est significatif de voir qui on érige dans notre espace public sur des statues, à quels sont les noms de nos rues. Donc qu'il y ait eu, et historiquement ça a toujours été le cas, qu'il y ait eu des remises en cause de qui était érigé comme modèle. On n'a pas de statue de Pétain en France et à ma connaissance, on n'en a plus. C'est pas perçu comme étant de la censure. C'est perçu comme ce qu'on souhaite donner à voir de notre histoire. Donc aujourd'hui en France, mais pas seulement, il y a des remises en cause de qui est présent dans l'espace public et qui est perçu comme un modèle. Je trouve ça tout à fait sain et intéressant. Et celles et ceux qui habitent Paris, il y a une exposition à Beaubourg, Global Résistance, qui est super intéressante. Et il y a en particulier un artiste angolais qui a fait des photos sur justement les stèles de statues qui ont été déboulonnées en Angola. Et il y a eu toute une performance de militants et LGBT sur ces statuts. Donc je trouve que c'est intéressant pour tout ce que ça dit d'un point de vue de rapport à l'histoire et de réappropriation d'une histoire plus pluraliste. Donc moi, il faut que ce soit fait de manière didactique, mais je trouve que c'est un vrai débat qu'on doit avoir.
Dick Howard, vous voulez réagir?
Écoutez, Je reviens d'abord au dessin.
Je vous en prie.
Et à la question de finalement, comment dirais-je, du rapport entre la démocratie et la République. La République qui assure une égalité devant la loi, une démocratie qui permet justement ce phénomène de j'allais dire oubli, mais en fait, je prends plutôt le titre du dernier livre de Paul Ricoeur, 87 ans, et il publie un livre qui s'appelle, un gros livre par ailleurs, qui s'appelle « Mémoire, histoire, pardon ». Et justement, une démocratie devrait pouvoir non seulement oublier, mais pardonner, comprendre justement que, par exemple, la Déclaration d'indépendance de Jefferson, avec ses vérités auxquelles nous tenons, que ces vérités peuvent évoluer, que finalement, la doctrine... J'ai dit que lors de l'élection de Trump, je croyais que les institutions tiendraient. Mais en fait, j'aurais dû me souvenir aussi que finalement, dans l'histoire américaine, tous les mouvements progressistes, tous, se sentent référés avant tout aux paroles de Jefferson, à la Déclaration d'indépendance, qui n'a aucun statut juridique, n'est-ce pas? Et qu'il y a quelque chose qui, justement, pour revenir à ce que vous disiez, c'est ça qui fournit une dynamique, je dirais que c'est une dynamique qui fonctionne non pas indépendamment, mais au sein de institutions républicaines qui elles-mêmes doivent pouvoir s'ouvrir sous la pression, si l'on veut, d'intérêts démocratiques. Donc il y a une sorte de dialectique entre les deux.
Pour revenir un tout petit peu, il reste très peu de temps, mais quand même sur le New York Times que vous évoquiez tout à l'heure et la question qui est la nôtre aujourd'hui, celle du débat. Il se trouve que précisément l'année dernière, suite à une caricature qui a fait beaucoup réagir dans le New York Times, on a arrêté de publier des caricatures. C'était une caricature où on voyait Donald Trump qui tenait en laisse un chien sous les traits de Benjamin Netanyahu. Le dessinateur voulait dénoncer la colonisation israélienne, et il se trouve que avec la vague déferlement de critiques qu'il y a eu, eh bien le New York Times a décidé d'arrêter les caricatures. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pas la caricature elle-même, mais à la fois les réactions, mais aussi la deuxième réaction, c'est-à-dire le fait d'arrêter du coup d'en publier.
J'ai l'impression que le New York Times a perdu sa conscience de péché, de culpabilité, pour devenir un organe réglé par le refus de la honte, de la critique. Elle est devenue de plus en plus conformiste et c'est très frustrant. On a envoyé un rédacteur chargé des opinions. C'est pas bien.
C'est quelque chose qu'on voit aussi, Jeanne Sénac, dans les médias français, et qui serait peut-être le résultat de ce dont on parle depuis une quarantaine de minutes maintenant, c'est-à-dire cette cancel culture, même si on a bien compris que c'était un terme qui vous gênait, une formule qui est un peu embêtante, mais il y a au fond des normes aussi qui bougent, et tant mieux, mais c'est aussi le résultat de ça.
Moi, j'ai pas vraiment l'impression, et Marc Semois en parlera mieux que moi, mais qu'il y ait une auto-censure de la part des journalistes. Il y a encore de très grandes caricatures en France, caricaturistes.
La situation n'est pas celle des États-Unis.
Voilà. Non.
Toute la question, et sans quoi, d'ailleurs une des raisons même de ce débat, et sans quoi les États-Unis nous interrogent, c'est que souvent,
ce qui est aux États-Unis, un phénomène, chez nous,
on traversait l'Atlantique.
Alors par contre, qu'on se pose la question, quand on est journaliste, de savoir à qui on donne la parole, et est-ce qu'on le permet de dépasser une forme d'hégémonie culturelle, et voilà, ça c'est un vrai sujet, c'est pas un sujet de s'auto-censurer, mais de se dire malgré moi je porte un entre-soi où je vais tolérer certaines agressions plus que d'autres, où je vais trouver certains actes comme remettant en cause la liberté d'expression et d'autres non, ça c'est un vrai sujet, mais c'est pas de la censure, c'est peut-être de la complexification du rapport à la liberté et à l'égalité de manière imbriquée, puisque l'un ne peut pas être pensé sans l'autre.
Merci beaucoup en tout cas à toutes et tous d'avoir participé à ce débat. La journée spéciale continue sur France Culture. Que faisons-nous du débat public? C'est la grande question qu'on se pose sur notre antenne aujourd'hui. Merci Dick Howard, je rappelle Les Ombres de l'Amérique chez François Bourin, Régène Sénac, L'Égalité sans condition, Les Non-Frères au pays de l'égalité, toutes les références évidemment à retrouver sur la page de France Culture.